Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec un deuxième invité qui écrit des billets d'humour humoristique à la radio et qui est étudiant en cinéma.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Présentée par Rosalie Berne, un mardi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Simon Marie, notre invité qui va nous ouvrir les portes de sa vision de l'humour. Et en deuxième partie, on reste avec lui et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Et bonjour Simon, comment tu vas ?
Bonjour Rosalie, ça va et toi ?
Ça va bien. Comme on peut l'entendre, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître puisque tu es aussi à Radio Campus Paris.
Ouais.
Et tu écris depuis 6 ans des billets d'humeur humoristiques et même satiriques. Tu es passé par Chablis Hebdo, par la matinale de 19h et on te retrouve au Monde Zygomatique, l'émission que tu as créée, une émission d'actu mêlée à de l'humour.
Ouais, tous les mercredis, ouais.
Tous les mercredis à 19h ?
20h.
20h.
20h, tu y es aussi.
J'y suis aussi, mais j'ai oublié que c'était à 20h. Mais juste avant de parler de ton émission, j'aimerais juste savoir c'est quoi qui t'a poussé à faire des blagues ?
Je pense qu'il y a plein de trucs. Je crois que j'ai toujours été taquin quand j'étais gamin, mais après sur la pratique de l'humour, j'ai toujours eu un truc, je sais pas, j'ai eu une distance avec ça, je me disais que c'était pas sérieux. Bon, oui, alors que comme quoi j'étais dans le mille, hein, ça c'était pas sérieux déjà à l'époque, mais je pense que le moment où j'ai vraiment voulu écrire des trucs drôles, c'est à l'époque où les guignols se sont fait censurer. Les auteurs se sont fait remercier, ont été remplacés par d'autres auteurs, donc ils n'ont pas été littéralement censurés, mais ils se sont fait... Ce problème du CDD dans la télévision et à la radio, c'est qu'en fait, tu te fais plus virer maintenant, tu te fais juste pas renouveler ton contrat, quoi. Mais voilà, quand les guignols se sont arrêtés en 2015, c'était une émission que je regardais quasiment tous les jours, qui m'a porté un vrai regard sur l'actualité. C'était aussi mon rapport, pas qu'à l'humour, mais aussi à la politique, à démarrer, grâce aux guignols. Et ouais, quand ça s'est arrêté, j'ai ressenti un vide. Et ouais, j'ai voulu écrire, j'ai commencé à écrire des trucs à ce moment-là, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des trucs, et j'ai fait des vidéos sur YouTube qui sont en non répertoriées, ne cherchez pas. J'ai fait un an et demi, je pense, de vidéos qui étaient pas drôles. Enfin, aujourd'hui, je trouve pas ça drôle, je suis fier de la personne que j'étais à l'époque, mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment terrible.
Qu'est-ce qui était terrible ? Parce que c'est les débuts, c'est normal. Qu'est-ce qui aujourd'hui te choque, te dit, mais pourquoi j'ai écrit ça comme ça ?
Franchement, il y en a, c'était vraiment actu blague.
D'accord.
Un peu comme les guignols, mais il n'y avait pas tout le côté sketch marionnette, quoi. Et parfois, il n'y avait pas de chute, quoi.
Et tu passais vite à une autre blague directement.
Ouais,
et
c'est ça. Alors moi, je voulais pas monter parce que j'aimais pas les youtubeurs en plus. Donc je ne montais rien du tout.
Ah,
donc
oui,
vraiment,
direct.
Je faisais ça condition directe où j'avais un texte que je n'arrivais pas à apprendre.
En fait, t'es très radio finalement. Parce
ouais,
que
c'est déjà très radio.
Très radio.
Ouais.
Tu vas direct, il n'y a pas de.
Exactement.
T'as tout écrit. T'avais tout écrit avant ou c'était.
J'avais tout écrit avant.
Voilà. Ouais, comme
en plus,
radio.
Je parlais à une caméra, donc je me voyais pas improviser, j'y arrivais pas du tout. Et en fait, j'ai arrêté ces vidéos-là et je suis ami avec Jacques Bouillet qui officie encore parfois à la radio ici, qui était à la communication Radio Campus Paris à l'époque, où je suis arrivé. Il m'a dit, mais pourquoi, au lieu de faire des vidéos qui te plaisent pas, viens faire plutôt des chroniques à la radio. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi.
Ok, voilà. Et c'était ça, le plus formateur, c'était vraiment d'avoir créé en amont, et où c'était vraiment Radio Campus Paris de tester...
Pour moi, c'est vraiment Radio Campus Paris, particulièrement Chablis Hebdo quand même.
Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ?
Ça m'a apporté la création sonore. Parce que, en fait, la chronique, j'adore ça. D'ailleurs, j'en fais encore. Enfin, je fais des billets à la matinale. Donc, si je le faisais... Enfin, si ça ne me plaisait pas, je ne le ferais plus. Mais Chablis a apporté une dimension que, par exemple, des Guillaume Meurice que j'ai découvert quand j'étais au lycée n'avaient pas du tout, qui était vraiment la donnée création sonore où on peut créer des univers avec la radio. On peut embarquer les gens dans des trucs, parce que tu fais très bien aussi dans tes chroniques, par exemple, ou ce que font même les copaines du monde zygomatique. Il y a une vraie qualité des gens à embarquer les gens dans un univers pour parler des travers de l'actualité ou parler des absurdités de la vie. Ça dépend de la sensibilité des gens. Mais ouais, la dimension, tu peux mettre un son de rue et faire croire que tu es en balade dans le Massachusetts. C'est un truc que j'ai découvert en faisant Chablis Hebdo. Ouais. Ouais.
Et est-ce que, parce qu'on est tous les deux donc à Radio Campus Paris, est-ce que pour maintenir
Père
le
corpo.
Rythme très très corpo là aujourd'hui, désolé, mais c'était en même temps intéressant de t'avoir. Est-ce que c'est vraiment le côté radio qui t'a apporté le côté maintenir son rythme d'écriture, Ou est-ce que tu arrives, tu as d'autres moyens quand tu fais plus, peut-être tu refais des vidéos, peut-être au niveau du cinéma, vu que tu es étudiant en cinéma. Comment toi, tu arrives à maintenir un rythme? Parce que je sais qu'en radio, on est obligé d'aller en direct, donc on n'a pas le choix. Il y a des personnes qui nous attendent et ça, c'est vraiment un grand bénéfice. Mais est-ce qu'il y a d'autres techniques que tu as?
Moi, je me suis vraiment imposé ce truc-là de venir toutes les semaines à la radio, que je n'ai pas toujours bien vécu en 6 ans, notamment quand j'étais plus jeune. Du coup, je suis arrivé à Campus à 18 ans. Donc, quand j'avais entre 18 et 20 ans, les deux, trois premières années, c'était un peu plus compliqué les fois où je ratais les chroniques. Parce que quand on vient toutes les semaines, en tout cas à une échelle bénévole, peut-être que chez les pros, c'est peut-être plus à une échelle quotidienne, mais ça dépend des gens. Mais forcément, il y a des fois où on fait de la merde, quoi. Enfin, où il y a des choses qu'on réussit pas. Il y a des trucs où on va juste faire ricaner les gens et ce sera déjà très bien. Il y a des fois où on va les faire pouffer de rire et il y a des fois où il y aura quasiment rien, quoi. Et je pense que ça a été une violence à un certain âge, ouais, que j'ai pas forcément bien vécu ce truc-là, mais j'ai quand même gardé ce truc-là, quoi. Jamais renoncé à venir toutes les semaines. Du coup, ça fait ce que je suis aujourd'hui, quoi. Je sais pas si tout ce que je fais est encore drôle. Je pense qu'il y a encore du déchet aujourd'hui dans ce que je fais, mais ça m'a aidé, quoi. Ouais. Et justement, par rapport, parce que tu disais que je faisais du cinéma, et c'est vrai, je fais showbiz. Non, je suis encore étudiant. Dans un master de réalisation, pour devenir pâtissier, évidemment. Et le cinéma, c'est une temporalité qui est bien différente de la radio. C'est-à-dire qu'on bosse sur des projets sur 1, 2, 3 ans, plus quand on fait du long métrage, parce que moi je suis encore étudiant, donc je me limite à des courts métrages. Quand tu fais du long, il y a des gens qui peuvent mettre parfois 20 ans à faire un film, quoi. Du coup, moi, j'aime bien cette immédiateté, me dire qu'une fois dans la semaine, je vais venir à 18h et à 20h, on n'en parle plus, quoi.
Et oui, que ce sera au moins fini.
J'adore.
Et que t'as fini quelque chose, quoi.
Ouais, ouais. Et ça m'aide pour le cinéma, pour le coup.
Ouais, d'avoir quelque chose, au moins tu t'entraînes à côté, tu te rappelles que t'es capable d'en écrire et pour que le long terme... Ok, super intéressant.
Après, ça contraint parfois l'écriture au cinéma. Parfois, je me dis qu'il faudrait que je prenne plus de vacances, tu vois, pour développer des projets un peu plus longs. Mais sur l'ensemble, moi, non, c'est quand même un vrai exutoire, ouais. Ouais.
Et au niveau radio, est-ce que tu t'entoures pour écrire ou tu écris seul?
L'avantage de Radio Campus Paris, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais à l'heure où j'écris, donc entre 18 et 20 heures, il y a toujours des gens. Donc si jamais je suis dans un moment de doute sur est-ce que ça passe, au sens est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est trop délicat, je ne sais pas. Et du coup, bah, comme il y a toujours des gens à la radio, bah, si j'ai des doutes sur certains passages, je leur dis « Ah tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?»
Ouais,
mais j'ai pas de co-auteurice, quoi, si c'est ta question.
Ouais. Oui, tu travailles seul, mais tu as toujours quelqu'un pour donner un petit retour à
ton travail. En revanche, sur les scénarios que j'écris, je les fais relire.
Toujours, oui.
À des amis qui ont une sensibilité plutôt dans l'humour.
Et est-ce que tu as des limites dans l'écriture? Un genre de blague que tu aimes beaucoup, hein, mais ça te ressemble pas? On va un peu catégoriser, pour expliquer un peu aux auditorices, ça peut être humour noir, tu vois, humour absurde, humour plutôt satirique.
Ok, ce genre de...
Ce genre de catégorisation pour que les auditeurs se rendent compte un peu.
Ouais, j'avoue que j'ai pas l'impression de me priver d'un genre d'humour en particulier. Le mot satire, il est important, je trouve, parce que du coup, moi, je suis arrivé par ça. Je parlais des guignols quand je disais ce qui m'a poussé à écrire de l'humour, mais au-delà de ça, je pense que j'aurais pu prendre des virages un peu plus légers à d'autres moments de ma vie, notamment quand je suis arrivé à la radio. Et en fait, moi, la satire, elle est arrivée dès le début, parce que donc, faire des blagues sur l'actualité, donc utiliser vraiment l'actualité et la retourner pour soit en dénoncer l'absurdité, soit l'hypocrisie, soit je ne sais quoi. Et j'y suis arrivé aussi parce que c'était une époque où la radio, c'était pas encore la bande de Nagui, enfin elle existait déjà, mais c'était pas le truc de je fais des blagues sur le quotidien, enfin je fais du stand-up à la radio. Ça démarrait à peine quand je suis arrivé en 2018 à la radio à Campus Paris, et du coup c'est vraiment pour moi la racine du truc. Mais après, la satire, tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Pour moi, la satire, c'est prendre le réel et le retourner. Tu prends une crêpe et tu la retournes, quoi. Mais la crêpe, tu peux la retourner de plein de façons différentes, quoi. Donc tu peux faire de l'absurde, tu peux faire du débile même total, quoi. Enfin, moi, j'aime bien le débile, j'adore Rick Ramsey, ça me fume de rire, même sa vie très mal hache. Mais voilà, l'humour noir, ça peut être un endroit où je vais, c'est pas que c'est pas moi, mais je vais faire plus gaffe, parce que pour moi, il y a vraiment un truc de... il faut que ça... Si ça ne...
Il faut des bonnes connaissances quand tu fais de l'humour noir. Si tu parles d'un sujet, il faut de très bonnes connaissances. Ah, ouais. Tu peux pas y aller en y allant les yeux fermés. C'est vraiment un truc où il faut des connaissances. Et donc, tu y vas plus à tatillon.
Exactement. Même si tu dois être au 10 milliardième degré, c'est quand même bien d'avoir une base de qui est l'oppresseur, qui est l'opprimé. Et si ça dessert plus l'opprimé que l'oppresseur, je vais pas la faire, la blague.
Ok, super intéressant.
Mais je peux avoir des idées de trucs très problématiques.
Ah oui, mais je pense que ça nous arrive tous.
Je pense que ça nous arrive tous.
Ça serait un peu moche de dire non, moi j'ai que des belles idées dans ma tête. C'est impossible.
Parce que je suis une hirondelle en fait.
Mais important, c'est de pas les dire, c'est de les garder pour soi.
Ouais, c'est finalement. Ça. Ouais. En revanche, si c'est un truc très grave, très dégueulasse, mais que ça va dans le sens de dénoncer plutôt quelque chose d'oppressant, ça j'y vais.
Ouais.
Mais du coup, j'ai plus de... Voilà, j'ai des filtres, quoi.
Ok, super. On va passer à la dernière question, parce que c'est... On arrive bientôt à la fin de cette
interview. Ça passe très vite.
Ça passe super vite. C'est quoi le conseil qui ne t'a pas aidé dans ton processus créatif? Donc, on imagine toujours, on demande toujours un peu le côté développement personnel de qu'est-ce qui t'a aidé. En fait, ce conseil ne servira jamais à d'autres. Mais là, je vais plutôt te poser la question, on t'a donné un conseil et tu t'es rendu compte que c'était absolument pas fait pour toi?
Moi, j'ai un truc, alors du coup, plus proche du cinéma, du coup, parce que j'ai écrit, énormément, je suis encore étudiant, hein, j'ai pas écrit énormément, mais à l'échelle d'un étudiant, j'ai écrit pas mal de scénarios. Et mon scénario de mon film de fin d'études que je n'ai pas tourné, qui n'existe pas encore, qui est juste pour contextualiser, c'est une comédie, et qui mélange pas mal de types d'humour, justement. Et j'ai un directeur. Premier rendez-vous, il me dit « Non, mais de toute façon, votre film, c'est une satire et c'est pas autre chose. Donc, tous les trucs d'absurde, vous me les virez. » Et vraiment, je le regarde, je fais « Mais... Bah non, enfin, en plus, pour le passage absurde, pour contextualiser pour les auditoristes, parce que le film n'existe pas encore, c'est un truc qui est diégétiquement... Enfin, la diégèse, c'est ce qui se passe dans l'histoire. C'est diégétiquement justifié par le fait que la personne est en gueule de bois et c'est parce que c'est un personnage qui est en gueule de bois et qui imagine des trucs absurdes, quoi. C'est même pas une parenthèse enchantée où il se passe... où il y a de la merde, quoi. Et j'étais là, mais ça n'a aucun sens, quoi.
C'est un peu de faire... j'ai l'impression qu'il te demande de faire quelque chose de très stéréotypé, qui est très vendable après, peut-être, pour des grandes industries du cinéma où eux, ils ont besoin de catégoriser parce que c'est plus simple pour eux.
J'ai eu ce truc-là aussi d'autres profs qui m'ont dit ça. Tu vois, si j'étais France 2, je dirais que c'est du gras, enfin un truc qu'il faut supprimer. J'ai eu ce conseil-là. Et ouais, je pense qu'il y a eu un truc comme ça de cataloguer, parce qu'on est en France et que la France, c'est un des pays les plus catalogants du monde. On a implanté des mots, super cette émission. Mais et j'ai trouvé ça complètement débile. Et tu vois, c'est par rapport à ce que je disais, la réflexion que j'avais tout à l'heure sur la satire, qui en fait, tu pars du réel, mais après tu peux en faire plein de trucs, tu peux en faire de l'absurde, tu peux en faire quelque chose de très grave, tu peux en faire plein de choses. Mais en fait, ça vient de cette époque-là où j'ai eu ce conseil vraiment complètement pourri et que j'ai essayé d'appliquer, où j'avais retiré justement les passages un peu plus absurdes du scénario, trucs comme ça. En fait, ce truc me plaisait plus du tout, quoi. Et après, j'ai rencontré d'autres gens, notamment d'autres profs, qui m'ont dit, mais en fait, où je leur ai fait relire la V1, où j'avais remis les trucs absurdes, et ils m'avaient dit, mais c'est très bien.
Oui, ça dépend complètement.
Et j'étais là, vraiment, j'ai perdu un an, quoi.
Donc, un peu la morale de l'histoire, faites attention quand on vous donne des conseils, prenez de recul, on sait jamais.
Ah ouais, de ouf.
Eh bien, écoute, juste pour la dernière, parce que je sais que tu lis énormément de livres autour de l'humour.
Oui.
Est-ce que tu en as un ou deux à recommander?
J'en ai deux. Non, j'en ai un. Mais c'est bien. C'est Au van citoyen de Charline Von Necker. Donc, Charline Von Necker qui est toujours à France Inter, qui a fait la quotidienne d'humour, qui a notamment révélé Meurice, et qui est encore aujourd'hui dans la matinale de France Inter. C'est le dernier quota de gauche de ce programme. Et elle a fait un livre qui s'appelait Au van citoyen, qui date de 2022. Ça date de. Ouais, c'était un peu avant la présidentielle que c'est sorti. Et c'est un livre où elle l'auto-analyse. Son rapport justement à la satire politique, à l'humour. Donc elle reprend des passages de fois, notamment de la fameuse fois où elle a fait un billet devant Darmanin avec Meurice et où le mec a pas ri du tout, et ça parlait de toutes les casseroles qu'il avait à l'époque, ce genre de truc. Et voilà, toute une réflexion qui m'avait pas mal inspiré, quoi. J'ai bien aimé, ouais.
Merci beaucoup, Simon, de nous avoir ouvert les portes de ta vision de l'humour.
Bah,
et
merci,
tu restes
à toi.
Avec nous pour
oui.
la deuxième partie.
On va jouer ?
Et on va jouer.
Oh là là.
Et Et on revient, on est toujours avec Simon Marie pour la deuxième partie de cette émission, le petit bac revisité. On va jouer au petit bac classique, mais avec des catégories inédites comme le nom d'un politicien conservateur ou le nom d'une marque de céréales. On commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va choisir au hasard une lettre. Je vais lancer l'alphabet dans ma tête et Simon, tu me dis quand... stop quand tu le sens.
Ouais.
Ah.
Stop.
Ah, on est tombé sur W. Je sais pas si ça te tente ou si
on refait, on refait.
Okay.
Joker W.
Ah.
Stop.
E.
Ok,
on est sur le E. On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses et on se retrouve juste après.
So slowly, time goes by.
Vous venez d'écouter Hung Up de Madonna sur Radio Campus Paris.
C'était pas de Patrick Fiori, Hung Up.
Non.
C'était Madonna.
Non,
putain.
Non, il parle pas bien anglais.
Mais je confonds toujours les deux.
Non, mais, ouais. Mais il est pas bon en anglais, tu devrais l'écouter, c'est horrible.
C'est vrai, ça m'étonne pas.
Je vous ai fait un petit cadeau là. Donc on va revenir, là on était sur le jeu du petit bac,
ouais.
Revisité. Donc on avait des catégories, on avait la lettre E. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nom d'un politicien conservateur?
Edgar Foidevaux.
Oh.
C'est un gros viandard, tu vois, un peu voilà, la chasse, tu vois, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal, j'aime bien, je le vois bien. En fait, je pourrais le croire, tu vois, tu me dis vraiment ça à premier degré, je ferais semblant de savoir, je ferais pas, bien sûr.
Ça ferait un bon sketch, tu vois, Edgar Foidevaux, bonjour, oui, bonjour. Tu vois, il y a un truc... On est dedans, quoi. On va écrire ça après l'émission. Voilà.
Juste après,
on va faire ça.
On retrouvera ça à Mondzigomatic.
Mercredi, ouais, exactement. Et toi ?
Moi, j'ai trouvé Étienne de Grande-Élancourt de la Villardière.
Ah, c'est bien ça.
Un peu long, tu vois, genre comme s'ils disaient une phrase à chaque fois qu'ils disaient leur nom, prénom.
Mais plus de Villepin, je suis de droite, mais pas d'extrême droite non plus, ou quand même bien.
Non, je suis catholique et je fais semblant de ne pas aimer l'extrême droite, même si j'ai les mêmes valeurs.
D'accord. Ah, ouais, ce genre de gens. Ok.
Plus là-dedans.
Bah, ils sont plus nombreux, donc les probas étaient plus proches de ça.
Ouais, c'est vrai. Le nom d'une marque de céréales.
Les Herobs.
Ça fait un peu un super héros.
Ouais, c'est des trésors de Kellogg's mais avec du sirop d'érable.
Oh, arrête, ça c'est bon. Envoie ça aux Canadiens direct.
On va non, c'est les Canadiens qui vont nous envoyer ça parce qu'ils font un meilleur sirop d'érable.
Oui, je pensais vraiment les Canadiens. On appelle
les Canadiens. Allô, le Canada.
S'il vous plaît, on veut ça nous. Moi j'avais mais c'est pas mon repas de la flemme ça.
Ah ouais, c'est la honest version des céréales. C'est vrai ça, c'est très bien. Ah, j'adore.
Après, il y a le nom d'un sport inédit.
Ah, ça c'est génial. Alors ça c'est super parce que ça allie santé parce que c'est du sport, et aussi santé de l'esprit parce qu'on prend soin de son corps. C'est du ennis.
Ah.
Et en fait, c'est du tennis, mais tu fais un henné en même temps.
Un henné, c'est quoi?
Le henné, tu sais, c'est l'espèce de teinture de cheveux où tu mets une espèce, une espèce de pâte dans du plastique. Et en fait, il faut imaginer des gens avec une tête de schtroumpf, hein, vraiment, parce que ça, tu ressembles à ça, de lutin. Et tu joues au tennis pendant que ça s'imprègne dans le cuir chevelu, quoi.
Mais en fait, c'est du 2 en 1. Finalement, t'es un peu, on est corpo, mais là, on fait un peu macroniste, tu vois.
On crée de la start-up, on est à fond. Hein.
Ça marcherait, tu vois, comme les brookies, c'est un mélange de cookies et de...
Exact, c'est un peu le rookie du sport bien-être, quoi.
Exactement. Ouais. Eh bien, écoute, j'enverrai ça à l'EDEC. La phrase... Alors, moi, dans mon sport inédit, c'est l'étang natation. C'est-à-dire que t'as pied, donc les gens qui n'ont pas envie de nager, ils peuvent très bien juste marcher dans l'eau.
Et j'imagine
pour,
beaucoup.
Le sport de flemme.
Ah, c'est très bien. Et j'imagine beaucoup aussi des gens galérer à nager parce que du coup, il n'y a pas assez de profondeur. Et du coup, vraiment, il faut imaginer. Là, c'est sur la terre. Voilà, c'est comme ça... on est sur de la... Voilà, c'est de la création sonore, la radio.
Exactement.
Et toc, France Inter, faisait des sons.
Et le prochain, la dernière catégorie, c'est un nouvel adjectif pour décrire un sentiment.
Ah oui. Alors, je viens de me rendre compte que ça avait un autre sens. Donc, on va dire que c'est un faux ami. En anglais, ça veut dire une chose, et en français, ça veut dire autre chose. Lévitiment. Ou en gros, c'est des sentiments, et c'était évident que vous étiez fait l'un pour l'autre, tu vois. Et c'était un truc un truc un peu joli. Ou sinon, c'est lévitiment, c'est quelqu'un qui ne veut pas... qui préfère justement fuir quelqu'un, quoi. Donc on va dire que c'est un faux ami. Il y a un sens en anglais, un sens en français. Quoi.
Ça marche pour les deux. Tu sais, si tu dis ça, tu sais pas si la personne t'aime ou elle veut se barrer.
Ouais.
J'aime bien. Ça rappelle les deux.
Ça peut être une évidence et quelque chose de joli, quoi.
Moi, j'ai utilisé un mot qui existe déjà, mais je voudrais que ce soit un adjectif. Je voudrais élaguer. C'est se sentir envie de tout péter.
Ouais,
tu vois,
c'est bien
tu
ça.
Coupes
ouais,
tout
ouais, ouais.
Comme ça. Et j'élague ma vie. En ce moment, je suis très élaguée.
Ou la vie sociale aussi, tu vois. Il y a des gens. Il y a des gens tu vois, où tu t'es là, bon, franchement, tu ne sers à rien. Quoi.
Et tu élagues, mais c'est un sentiment,
ouais.
Donc tu ouais, le ouais. sens élagué,
ouais,
cette
ouais,
personne,
ouais.
finalement.
Oui, mais peut-être que des gens du monde zygomatique écouteront ça, donc peut-être qu'ils ne veulent pas savoir qu'ils seront virés la semaine prochaine. Donc
non, mais je couperai cette
De toute façon, c'est monté, hein, oui, c'est ça. Hein,
tout ouais. à fait, exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
Et il n'y a pas la phrase aussi.
Et la phrase qui met tout le monde d'accord, j'ai loupé complètement une catégorie.
C'était quoi, toi
Moi, j'ai. Et voilà quoi.
Ah ouais.
Voilà. Personne ouais, ne ouais. peut pas être d'accord avec ça.
Ouais, ouais.
T'as trouvé quoi toi?
Moi j'ai émerde. Émerde, tu vois, ça c'est
oui.
quand même ça c'est quand même le truc un peu universel
oui,
pour
je pense que c'est ni de droite ni de gauche, tu vois, quand on fait le jeu des droits,
la
que
merde,
droite, que
la merde c'est complètement universel.
Ouais, c'est très
ouais,
beau.
Ouais. J'en fais un projet politique.
Et on va terminer sur cette phrase,
j'adorerais.
Ce sera la phrase du titre de cette émission.
Ah ouais.
Ça va être ça. Bah oui, c'est parti. Allez. Alors, écoute, c'est la fin de cette émission. Merci à toi de t'être confié au micro de Blague
Merci
à
toi.
Et merci d'avoir joué le jeu. On te retrouve dans le monde zygomatique tous les mercredis
ouais.
à 20h.
Ouais. On n'a pas le non-invité encore. Là. Faut qu'on brainstorm.
Et ça va arriver. Le non-invité, c'est une personne qu'on n'invite pas, mais
ouais.
on va quand même lui poser des questions. N'hésitez pas à aller écouter.
Ouais.
Et merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin. Mais on se retrouve dans 2 semaines, toujours à 18h sur le 93.9.
Ciao.